Salut Maven
Salut
et
Fabrice.
bienvenue dans ce petit épisode de podcast qui fait partie de la mini-série autour du design fiction et du sujet de la vision, du travail sur les futurs et puis qui mélange aussi les sujets autour des imaginaires, du récit, enfin voilà, tous ces grands sujets qui sont importants pour moi à traiter par plein de points de vue différents parce que ça me paraît être l'un des points cœur et central en 2024, quand on est dans la direction d'une entreprise, pour s'assurer que son entreprise est sur des bons rails pour avoir un avenir pérenne, autre que toutes les questions beaucoup plus, on va dire, économiques, pour pouvoir mettre du sens, pour pouvoir s'assurer que les stratégies ont du sens aussi, enfin tout ça. Voilà, donc du coup, c'est super d'avoir ton point de vue. Je veux bien que tu me dises deux, trois mots sur toi, sur ta boîte, sur tes activités. Ça met
Carrément.
un peu de contexte. Et puis après, je lancerai directement plein de questions pour
Sympa.
avoir plein d'infos.
Ok. Alors, du coup, moi, je m'appelle Mévan Royo. Je travaille dans une boîte qui s'appelle la Guilde de l'Innovation. Du coup, je suis associé. Je suis pas l'un des fondateurs, mais je suis associé. Et on travaille sur comment on accompagne les entreprises, mais sur des formats workshop, ateliers, etc. Donc, on fait beaucoup de facilitation graphique. Et il y a 3 ans, 2 ou 3 ans, on s'est rencontrés sur un séminaire à Sud de Pub qui était à la fois moi qui poussais le sujet de design fiction et Arthur Hawkins qui poussait aussi. On s'est retrouvés tous les deux et c'est comme ça après qu'on s'est associés et où du coup on va vraiment proposer aussi des formats et des outils de design fiction pour les entreprises. On a beaucoup travaillé avec les collectivités, peut-être j'en reparlerai après, mais on a eu des bonnes missions avec le Grand Lyon sur justement des problématiques de design fiction, de vision, d'imaginaire, etc. Et c'est quelque chose que maintenant on a vraiment intégré à notre pratique de designer facilitateur, de dire comment à chaque fois on remet le temps long, la vision, etc. dans ces choses-là. Et à côté, donc moi j'ai un peu une casquette de designer prospectif, storyteller, parce que je viens du monde de la com. Et du coup, c'était mon sujet, le storytelling de mon mémoire quand j'étais à la fac. Et du coup, je trouve que ça fait une bonne jonction entre toutes les compétences de design que j'ai pu acquérir ces dernières années et tout mon passé, on va dire, écriture, communication, etc. Au design fiction, je trouve que c'est vraiment le point de rencontre de toutes ces compétences-là et ça donne énormément de sens en plus dans le contexte actuel. De regarder plus loin que le bout de son nez, ou en tout cas, avec toutes les crises qui arrivent, il faut retrouver du temps.
Et pour toi, du coup, et Arthur, et ceux de ta boîte, du coup, comment vous arrivez à définir un peu et à expliquer ce que c'est que le design fiction, en
Alors,
soi?
pour moi, le design fiction, c'est un outil de débat, et un outil de prise de décision, et un outil de se mettre d'accord. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans cette idée d'outil de débat, c'est que quand on commence à réfléchir un petit peu à c'est quoi le futur et à quoi ça va ressembler, en fait, on se rend compte très vite autour de la table que tout le monde n'a pas la même version d'un futur désirable, de où on va dans 20 ou 30 ans. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout, peut-être vu ça dans tes interviews précédentes ou même dans ta vie de tous les jours, il y a des personnes qui ne se posent même pas la question de ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans. Donc, il y a vraiment plein de profils différents. Et je pense qu'effectivement, pour moi, le design fiction, c'est vraiment une pratique de réfléchir, de jamais, de pas perdre, enfin, de prendre en compte le futur dans les décisions du présent pour prendre les meilleures décisions, etc. Et après, dans les formes qu'il peut avoir, pour moi, ça doit surtout être un outil de débat. Parce qu'il y a des futurs au pluriel, il n'y a pas un futur qui est imposé, et il faut qu'on arrive à en parler pour savoir où on va s'orienter en fait collectivement. Et ce qui se passe en ce moment, et depuis, je sais pas, depuis toute l'ère industrielle, et puis l'étrangleuse, etc., c'est qu'on a l'impression qu'il y a des gros rails qui nous emmènent dans une seule direction. Et je pense qu'en ce moment, c'est ce qu'on sent, et c'est pour ça qu'il y a cette série de podcasts, je pense, qui existe. On vit quelque chose quand même qui est hyper excitant à l'heure actuelle. Je pense que tout le monde ressent qu'il faut aller chercher d'autres voies possibles parce que la voie principale, si on regarde les rapports du GIEC, si on regarde tous les scientifiques, etc., ça ne va pas. Si on va tous dans cette direction-là, et pourtant on y va. Et je me dis, le design fiction, il a aussi ce travail d'aller créer de nouveaux imaginaires qui sont peut-être plus féconds, qui sont peut-être plus désirables. Par la suite, c'est une longue définition par
Non,
rapport à
non,
ta question, mais
c'est très clair.
c'est ça balaye.
Et sur le rapport à l'imaginaire, un peu comme tu dis, c'est un outil qui aide les gens J'ai juste à imaginer, parce que comme tu dis, il y a plein de gens qui ne le pratiquent jamais. Fabien, dans le premier épisode, parlait-lui de pensée future. On peut aussi penser imaginaire ou penser rêve, quoi. Mais c'est vrai que tu peux m'en dire un peu plus sur comment est-ce que tu appréhendes les ateliers que vous pouvez mettre en place, ou quand vous proposez, ou quand vous répondez à un besoin de travailler là-dessus, le fait que les humains, qui, même ceux qui commandent, sont pas habitués du tout à ça. Et du coup, tu peux pas juste leur dire « Asseyez-vous dans une pièce, fermez les yeux, imaginez-vous en 2050, dites-moi ce que vous voyez autour de vous », parce que c'est beaucoup trop brut.
Ouais.
Et donc, du coup, comment est-ce que toi, tu appréhendes ça, et comment est-ce que vous arrivez à les amener à rentrer dans ce processus ?
Je pense qu'il y a plusieurs portes d'entrée. Il y a le fait que, quand même, mine de rien, en ce moment, ça devient de plus en plus acceptable comme discours, parce que je pense, par exemple, notamment avec la loi Pacte et les entreprises à mission qui sont obligées, de par leur statut juridique, d'avoir une raison d'être, qui, je trouve que cette loi Pacte, elle a quand même vachement tiré la notion de vision, etc. Donc, ça devient de moins en moins luberlu de dire on va parler du futur, mais quand même, qu'on soit bien d'accord, ça reste quand même compliqué d'aller voir des personnes et dire hey, on va réfléchir à 20 ou 30 ans. Et là, je pense qu'en fait, on est obligé d'avoir quand même un niveau de discours un petit peu théorique, en disant on peut pas, je pense notamment à l'accompagnement au changement des entreprises, etc. Si je définis pas une vision et une direction qui soit claire à plus 5, plus 10 ans, plus 15 ans, je peux pas embarquer les gens en fait dedans. Donc après, il y a des arguments très terre à terre qui sont quand même de l'ordre de l'engagement, sachant que en ce moment, on voit que le monde du travail est complètement chamboulé avec Big Quit, Silent Quitting et tous les trucs en quit. C'est devenu... Il y a une pression sur les entreprises d'engagement, de fidélisation des collaborateurs, etc. Et je crois que tout le monde a besoin de sens, du coup, dans l'entreprise. Mais du sens, en fait, qui est porté par aucune vision, par rien qui soit cohérent. Je trouve que c'est difficile d'embarquer les gens, et je pense qu'en ce moment, ça, c'est un des arguments principaux, c'est de dire si vous voulez faire des efforts et vous diriger vers un objectif, il va quand même falloir se mettre d'accord dans ce que je disais dans la définition, de dire à un moment aussi d'avoir des définitions communes de ce qu'est la vision ou le futur, en fait, vision égale le futur de l'entreprise. Et parce que si c'est porté que par une personne et que cette vision elle n'est pas partagée, ben, c'est très difficile d'embarquer les gens derrière. Ça, c'est un premier cas. Et après, l'autre cas, ça va être les entreprises qui savent, qui ont déjà un petit peu parlé d'imaginaire, de design fiction, etc. Donc là, en fait, il n'y a pas vraiment de choses, d'arguments, de convictions à faire. Après, c'est plus dans comment on amène les choses. Je ne sais pas après si ça sera ta question ou pas, mais dans comment, parce qu'il y a les commanditaires. Et puis après, il y a effectivement, même si le commanditaire, il est hyper embarqué dans... On l'a convaincu, ou il est déjà convaincu sur les infictions. Après, il y a la réalité de je vais faire un atelier des infictions avec des publics complètement différents qui, eux, peut-être, n'ont pas du tout ce niveau de connaissance-là. Et là, effectivement, il y a des choses qu'on a pu observer là, ces dernières années.
Allons-y, du coup. Comment est-ce que tu arrives à dérouler un atelier des infictions ? Et moi, je pourrais aussi mélanger ça avec, avec d'autres pratiques des autres personnes que j'ai interviewées.
Il y a une première étape qui est assez intéressante, en fait, c'est l'espèce de mise en commun, en fait, de se mettre d'accord sur c'est quoi le présent et le passé pour pouvoir se projeter vers le futur. Moi, j'aime bien, je fais toujours un schéma avec mes élèves où, en général, je fais une droite en mode maths avec deux points. Premier point, c'est passé. Deuxième point, c'est présent. Et après, j'en rajoute plusieurs. Mais je dis, en fait, pour pouvoir faire de la projection, et en mathématiques, on est d'accord que si je veux faire une courbe de tendance, il faut bien que plus j'ai de points en amont, plus je peux projeter, ou alors c'est en aval, je sais plus. Mais en tout cas, plus je peux se projeter après. Et effectivement, il y a une première phase qui est se mettre d'accord sur c'est quoi le contexte et sur les enjeux climatiques, parce qu'en fait, c'est difficile de parler de futur sans parler de la situation actuelle, des crises énergétiques, des crises écologiques, économiques, etc. Et en fait, on se rend compte que ça, c'est le premier challenge, je trouve, du design fiction. C'est comment je mets d'accord les gens sur un contexte qui n'est pas joyeux, en vrai. Mais vu du coup c'est le début de l'atelier, il faut quand même après les mettre dans un état positif pour que du coup, faut les inspirer, etc. Et je pense par exemple, dans les gros projets qu'on a fait, c'était surtout l'an dernier, en 2022, on a accompagné le Grand Lyon sur leur démarche au futur. C'est tout en ligne et il y a plein de traces, ça a été super bien documenté. Mais le pari du Grand Lyon et du service de prospective participation citoyenne, c'était de dire il faut qu'on aille voir les imaginaires des citoyens dans un monde où il va manquer d'eau. Et effectivement, on avait créé des ateliers à travers différents publics, collèges, maisons de retraite, etc., MJC. Et la première phase de l'atelier, c'était quand même une phase d'atelier qui était de manière ludique, mais on va quand même jouer avec les chiffres de c'est quoi l'eau, ça. Et effectivement, on a eu quand même des réactions parce qu'on savait déjà que ça allait arriver, mais on n'a pas pu en empêcher des réactions de peur, de mode de survie, effectivement, oui, il va y avoir moins d'eau. Et quand on part après plutôt dans une phase imaginative, ça peut réfléchir à quoi le futur, même en balisant et en faisant extrêmement attention au choix des mots, on avait quand même des gens qui étaient en mode ouais, ça va être la cata en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez difficile à faire. Où maintenant, je trouve que l'humour, c'est quelque chose d'assez intéressant, il faut dédramatiser les choses au début. Maintenant même de l'annoncer en début d'atelier, de dire bon bah on va prendre un petit temps là au début pour se mettre à jour un petit peu sur le contexte des chiffres, et je sais que ça va pas être joyeux, mais on est obligé quand même de le faire parce que du coup si on le fait pas, en fait la chose qui va se passer, le risque qui va se passer, c'est d'avoir des espèces d'imaginaires ou de futurs qui sont co-construits et qui soient complètement déconnectés du réel. Et ça, en fait, c'est en fait, on est toujours entre les deux. C'est si je fais pas cette mise en contexte-là, du coup, ça va peut-être faire des trucs un peu créatifs, mais pas forcément incarnés. Et quand je la fais, effectivement, ça fait des choses quand même qui vont être plus réelles et qui sont plus intéressantes à travailler après. Parce que le but du design fiction, pour moi, c'est quand même d'aller poser des questions après assez précises sur au quotidien, ça se passe comment, les usages, avec toute cette réflexion UX, donc centré utilisateur, etc., de dire comment ça va se passer au quotidien. Je trouve que c'est dans ces micro-interactions, quand on fait un bon truc de design fiction, c'est quand on va, qu'est-ce que j'ai vu comme... Il y a une super série en ce moment sur Netflix qui s'appelle Bodies. Je sais pas si...
Ouais, Bodies, ouais.
Ouais, et il y a un moment, il y a une timeline dans le futur dans cette série. Et c'est assez intéressant, la personne rentre dans son appartement et il y a l'IA générale qui dit bonjour, machin, etc. Et il y a une nouvelle personne que l'IA n'a jamais vue et jamais reconnue dans l'appart. Et là, l'IA, pour la première fois, dit bonjour, invité, sachez que les toilettes se trouvent au fond à droite. Et en fait, l'IA fait à la place, et je trouve que c'est dans ces toutes petites interactions-là, qui sont les plus intéressantes, en fait, de se dire ah ouais, ça se passerait comme ça au quotidien, mais du coup ça questionne quoi, ça veut dire que potentiellement de la reconnaissance faciale, ou est-ce que c'est juste une reconnaissance de quelqu'un, enfin. Et là, je trouve qu'on pose des questions après de société qui sont intéressantes.
Oui, c'est quand tu arrives à redescendre vraiment dans le détail des usages du quotidien, dans les habitudes, voilà. dans comment ça va changer ces petites interactions, ces petits moments, quoi.
Et c'est là où je trouve que les fictions intéressantes, et c'est là où je pense que les imaginaires sont au-dessus. On peut travailler que sur les imaginaires, où du coup on va aller chercher des concepts plus larges, même si on peut rentrer dans du précis. Mais les imaginaires, on vient chercher de l'émotion, on vient chercher un autre rapport au temps, un autre rapport au monde, un autre rapport à plein de choses, pour dire ça peut exister. Et après, effectivement, quand on fait vraiment du design fiction, si on veut vraiment soulever le débat, je trouve qu'on est obligé de rentrer en détail. Et c'est là que, pour moi, il faut extrêmement guider dans un atelier de design fiction la création, et être sûr qu'en fait on arrive bien au niveau de détail qui soit suffisant, et pas un niveau de détail, je vais caricaturer, mais par exemple ça a été le cas sur certains ateliers, j'imagine un monde et puis on reste un peu superficiel, où on n'est pas rentré dans le détail, et du coup ok, c'est intéressant parce que ça trahit une envie, ou ça nous révèle des envies des participants et de justement quels sont leurs imaginaires derrière. Mais par contre, en termes de débat concret, qu'est-ce que ça génère en fait dans la société? Et c'est ça qui, je trouve, qu'il faut faire extrêmement attention, c'est justement gérer ce niveau de jusqu'où on descend dans le détail pour pouvoir le faire.
Ça me fait penser comme rebond à un projet récent que j'ai fait. Moi, je vois toujours design fiction un peu vraiment comme deux phases, en fait. Vraiment la phase montante et la phase descendante. Donc, en gros, quand tu dis que tu montes, c'est que tu es en train de partir vers le futur. Et là, quand tu parles vers le futur, en effet, c'est d'essayer de venir chercher des émotions chez les gens pour que il y ait une résonance, en fait, qui se crée. Comme tu disais, chacun a ses propres visions, c'est pas forcément partagé. Ben, quand ils vont partager ses imaginaires, ben, du coup, tu leur dis, dans cet espace-là, tout est possible, tout est réalisable. On n'est pas là pour valider les choses par la science ou par la rationnelle. Donc, si vous voulez mettre des trucs qui volent, des bulles, de la téléportation, vous mettez tout ce que vous voulez. Mais que, au moins, en fait, tous les éléments que vous apportez au groupe, ce soit des choses qui, quand vous le partagez, ça vous fait du bien, en fait. Et comme ça, vous avez une espèce de petite bulle de love du futur qui arrive à se créer à vous tous. Mais en effet, je te rejoins, si jamais on s'arrête là, bah, ça a mis du love et une bonne vibe, mais derrière, le retour au métier, le lundi suivant, il est le même, et en fait, tu peux pas retracer la ligne. Donc du coup, t'as la deuxième phase où tu redescends, et c'est là-dessus que je vais te questionner après, mais juste avant, c'était un rebond aussi sur le préparatoire à ça. Tu parlais tout à l'heure de la nécessité de poser un peu les bases du passé et du présent. Ben, les personnes avec lesquelles on bossait, les collaboratrices qui nous accompagnaient sur la préparation de cette première phase de montant d'imaginaire, avaient besoin, avant de pouvoir s'autoriser à créer leur propre récit qu'elles allaient partager au groupe, parce que l'idée c'était qu'elles allaient partager deux de leurs récits pour en gros être un peu dans une situation de vulnérabilité et dire regardez, c'est possible de nous exprimer ensemble et de lâcher ce qu'on a dans le cœur et ce qu'on a vraiment envie, faites pareil que nous, et après on faisait l'atelier. Elles avaient besoin avant ça de dire ouais, mais en fait il faudrait qu'au début de l'atelier on puisse partager en fait l'état des lieux, quoi, parce que ils sont eux dans le secteur de l'énergie, énergie, mobilité, tout ça. En fait, il faut qu'on pose l'état des lieux et de dire qu'en fait, là, pendant les prochaines années, alors c'était un peu avec leurs termes, mais pendant les prochaines années, ça va être la merde et ça va être de plus en plus la merde. Et donc, je leur disais, je comprends ce besoin, parce qu'il faut en effet que tout le monde soit aligné sur le constat, mais on peut pas commencer l'atelier avec ça comme énergie, parce que sinon, ça va être ultra difficile d'arriver à mettre dans une autre énergie qui est complètement paradoxale d'une certaine manière. Bon, bref, du coup, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un temps en amont, un temps en codir, où elles ont partagé ça pour s'assurer que toutes les personnes qui seraient présentes, soient à cheval sur le fait que ça soit un peu galère de ci, de là. On a bien pu préciser que ça sera pas le propos, justement, de l'atelier. Et là, après, on a pu partir dans les imaginaires. Et la suite de l'atelier, d'ailleurs, tu vois, j'en profite, c'est jeudi. Je vais pouvoir récupérer tes feedbacks quasiment en live. Mais donc là, on va faire la phase de retour au présent en se disant, bon, voilà ce qui serait de l'ordre du rêve, du fantasme, du tout est possible. Mais là, actuellement, vous avez déjà une stratégie qui va jusqu'à 2030. Vous avez des lignes de plan d'action qui sont en place. Il va falloir qu'on redescende à ça pour pouvoir travailler le fait qu'on va tester si c'est aligné ou pas. Donc, il va falloir en effet faire ce retour dans le détail. Comment est-ce que toi et vous, avec la guilde, vous arrivez à faire ce chemin retour, sachant que moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a un côté ultra waouh et génial sur la partie imaginaire, parce que ça vient chercher des belles émotions, et que cette partie-là est toujours un peu plus compliquée et chiante, parce qu'elle est plus rationnelle, quoi.
Ouais. Alors, en fait, quand tu as parlé de mouvement, c'est vrai que je trouve qu'il y a deux mouvements possibles dans le design fiction. C'est soit on part du présent et on extrapole avec des si, what if, et je construis mon rêve, ou en tout cas, je rebondis sur des tendances, sur des signaux faibles qui me poussent à imaginer un futur. Ou aussi, nous, on a une autre méthodologie, enfin, on peut faire ça, mais on a une autre méthodologie, c'est que des fois, on catapulte directement dans des mondes futuristes, imaginaires, et on va dire des futurs alternatifs. Et en fait, là, on fait un petit peu ce que tu appelles la relaissante, c'est que du coup, on les balance carrément dans un univers, et après, on les fait réagir par rapport à cet univers. Qu'est-ce qui me plaît là-dedans? Qu'est-ce qui me plaît pas? Comment je me positionne par rapport à ça? Et après, du coup, de reconstruire, après, de prendre tous les ingrédients des futurs alternatifs, pour dire ça j'aimais bien, ça j'aimais pas trop, et de dire je garde le meilleur pour construire un peu une vision commune d'un autre futur alternatif, et du coup après effectivement la phase de redescente. Et pour cette phase de redescente, effectivement il y a le comment j'arrive à atteindre cette vision-là. C'est pour ça que du coup, quand même, on aime bien faire le contexte en avant, et je suis d'accord avec toi, c'est assez intéressant de le faire, pas le jour même, mais souvent, forcément, selon les commandes des clients, ou par exemple, quand tu travailles avec le grand public, en fait, c'est un one-shot de 3 heures.
Donc t'as pas le choix.
Et c'est pas le choix, et c'est parti. Ça me fait penser à un atelier qu'on a fait avec Laetitia Schill, qui est porté par Valérie Zoido et l'ADEME, en partie. hyper intéressant parce qu'elle avait été, fait partie des speakers que j'avais interviewé pendant l'événement clôture de Au Futur. Je vais faire une petite digression et après je vais revenir dessus pour répondre à ta question. Mais parce qu'il y avait quelque chose qui était hyper intéressant et qui m'avait marqué. Elle disait, tu vois, PNL, programmation neurolinguistique, le choix des mots est vraiment important. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé de son intervention, où elle disait, quand tu dis à quelqu'un, imagine un futur où il y a moins d'eau, en fait, le moins d'eau, tu déclenches une réaction de survie et de peur et de panique. Et c'est normal, on fait tous l'erreur, parce qu'en fait, c'est quand même le discours actuel de dire, il va faire moins d'eau. Enfin, il va y avoir moins d'eau douce, ou en tout cas, en moins... il va pas y avoir moins d'eau sur Terre, parce que le stock d'eau sur Terre est le même. Mais par contre, la distribution de l'eau et des réserves, on l'a bien vu cet été, on le voit là... avec les pluies torrentielles, etc., c'est complètement, le cycle de l'eau est un peu pété. Et elle disait, au lieu de poser la question comment imaginer un futur avec moins d'eau, poser la question comment imaginer un futur où l'eau est abondante. Globalement, on répond à la même chose. Les solutions qui vont être trouvées sont les mêmes, mais elles activent des choses beaucoup, complètement différentes. D'un côté, j'active la peur, le manque, la survie, et de l'autre côté, j'active de la créativité et de, bah, effectivement, comment je peux faire pour rendre l'eau abondante. Et globalement, les actions vont être à peu près les mêmes, végétaliser les villes, etc., parce qu'on se dit, bah, s'il y a moins d'eau, il faut faire venir l'eau, en fait. Donc, du coup, comment je stocke, et là, on voit la stratégie des imperméabilisations du Grand Lyon, bah oui, la priorité, là, c'est d'enlever du bitume et laisser s'infiltrer l'humidité. Bah, si je dis demain, comment je fais pour que l'eau elle soit abondante, j'arrive quasiment à des réflexions similaires, sauf que j'y vais de manière plus enjouée.
J'avais envie de rebondir parce que ça me fait penser à ça, mais on parle d'eau, mais si on parle d'argent, par exemple, parce que c'est quand même le sujet qui traîne tout le temps dans la tête de tout le monde, c'est vrai que comment est-ce que je peux faire? Souvent, l'avenir, c'est j'ai peur de plus avoir assez d'argent. Donc, du coup, comment je peux faire pour ne pas manquer d'argent? Mais ça, du coup, c'est quelque chose qui est aussi sur des triggers de peur, de manque, de tout ça. Alors qu'en effet, se poser la question de se dire comment est-ce que je peux vivre? Comment est-ce que je vais vivre dans une situation où j'ai de l'argent en abondance? Bah, du coup, ça permet d'écrire comment tu vas vivre. Donc, est-ce que je vais m'acheter 5 baraques, machin et tout? Bah, non, peut-être qu'en fait, je vais être dans un état de sobriété où j'ai tout ce qu'il me faut et tout. Et après, du coup, quand tu as réussi à travailler sur ça, à décrire ça, tu peux te faire ton petit plan d'action pour t'amener jusqu'à là. Et en effet, les étapes que tu vas mettre en place sont potentiellement les mêmes que pour pas manquer. Et là, du coup, c'est pour développer le fait d'avoir ce qu'il faut.
Dans l'abondance, et ce qui veut dire aussi définir l'abondance. Et du coup, d'aller chercher ces critères et te dire, ça veut dire quoi, l'abondance? Et peut-être qu'effectivement, c'est pas qu'une question de matériel et de biens physiques. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un pas de côté qui est hyper intéressant. Plus le temps... alors pourtant, je viens de la com, mais j'ai eu des cours de sémiologie, de linguistique, etc. Et je trouvais ça chiant, comme tout le monde à la fac, parce que c'était des heures et des heures en amphi. Et en fait, plus le temps passe, et plus je me dis en fait que le choix des mots, il est hyper important. Et tous ces concepts de programmation neurolinguistique, de biais cognitif, etc., et de voir en fait comment les mots en fait activent des réactions complètement différentes, je trouve que c'est hyper intéressant. Et pour moi, c'est là où le mot fiction, il a tout son sens dans design fiction. C'est qu'en fait, du coup, c'est tous les outils du storyteller et comment en fait je vais amener dans un état émotionnel, comment je vais générer de l'envie avec les personnes. Il y a une personne qui a dit une citation impossible de retrouver, peut-être que tu arriveras à la retrouver, mais c'était en anglais et elle disait, sur sa vision du design fiction, c'est aussi un outil pour réduire le gap, donc l'espace, et créer de l'empathie avec le futur. Et je crois que c'était aussi une belle définition du futur, de dire pourquoi on s'en fout autant de la Terre, pourquoi quand je consomme et je clique sur Amazon et que j'ai ma livraison 24 heures. Parce qu'en fait, il y a un décalage entre la récompense immédiate et les effets délétères qui sont sur beaucoup plus long terme. Et en fait, le design fiction, je trouve que c'est aussi une pratique qui permet de créer de l'empathie avec un futur soi ou avec une future situation. Et quand j'ai développé de l'empathie avec quelque chose qui est proche de moi ou qui est moi, parce que par exemple, des fois, on fait des exercices de design fiction où on parle vraiment de l'individu et de dire, bah voilà, tu te projettes où dans 20 ans, dans 30 ans. On avait fait un atelier inspiré d'un article du Zubekaka sur Wakapapa, qui était une pratique Et là, j'ai pu exactement. Et en plus, j'ai un article qui est écrit dessus sur UzbekiK. Donc, tu peux retrouver l'article en tapant mon prénom sur UzbekiK. Mais qui disait, en fait, pour prendre des décisions dans cette tribu, alors est-ce que c'est une tribu amérindienne? Un doute, on vérifiera. Mais en fait, de dire quand ils prennent des décisions pour la tribu, etc., ils font vraiment passer les gens dans un pas symboliquement pour les générations futures. Donc, dire, bah tiens, si je me projette, mon fils, comment ça va l'impacter cette situation, et vraiment réfléchir sur un temps long et transgénérationnel. Ouais, je sais plus pourquoi je disais ça.
Non, mais je trouve ça intéressant parce que là, ça me faisait même imaginer le futur comme pouvant être une. Personnifier le futur, tu vois. Genre, par exemple, c'est une personne. Donc, si en gros, moi, je suis le présent, je me mets en empathie avec le présent, et on est là, on s'éclate, on fait plein de trucs, on commande sur Amazon, on prend des avions, on déglingue tout. On a le constat qui a été fait passé présent, où on voit très bien que du coup, la personne du futur, elle va être en mode ravagée, en fait, ouais. En mode. Comme si c'était un gars qui était en fin d'after et qui est complètement éclaté, quoi. Qui, du coup, il voit tout en gris, il n'arrive pas à se lever, il n'arrive pas à bouger, il est malade, tu vois, il est mal, quoi. Du coup, tu peux t'imaginer te mettre en discussion avec cette personne, tu vois, et puis il peut même te parler de tout ce que tu lui as fait vivre, ouais, sur les dernières années, et du fait que, ben là, il est trop mal et tout. Et peut-être que, du coup, ouais, ça peut, par la personnification aussi, tu parlais de l'importance des mots ou des modèles mentaux, mais rentrer en empathie avec ce gars, et se dire, ben ouais, en fait, dans mes actions que je fais au quotidien, je vais faire exister cette personne dans cet état-là, mais si je change les pratiques maintenant, ben, il sera en meilleure santé. Et ce gars, au final, ben, c'est un peu moi, quoi. Tu vois, si tu t'es mis en empathie avec le présent, et ça te fait un rapport qui est intéressant, ouais.
Et c'est trop drôle que tu dis ça, parce que lors de l'événement clôture de Au Futur, on avait fait appel à une troupe de comédiens pour rendre sensible, en fait, ces futurs-là. Et en fait, ce qui est sorti c'est une démarche qui a duré 4 mois au futur, et du coup, il y a eu des milliers de récits qui ont été absorbés, qui après ont été retraduits, par les équipes du Grand Lyon et Imaginarium. 6 imaginaires, en fait, dont 2 imaginaires, en fait, qui étaient des imaginaires dominants, qui étaient, et là je vous la fais vraiment rapide, mais c'était dire par rapport à un manque d'eau, du coup, dans le futur, il y a 2 imaginaires qui se développent, et on voit que c'est les mêmes qui ressortent sur tout le reste, c'est la technologie va nous sauver, donc très technocrate, très, voilà, et l'autre c'est les éco-gestes, ou en tout cas chacun va prendre conscience qu'il faut économiser l'eau. Et en fait, le problème de ces 2 imaginaires-là, c'est qu'en fait, les 2, ils enlèvent le pouvoir d'action de l'individu, parce que du coup, on attend qu'il y ait autre chose d'extérieur, qui soit plus grand que nous, qui prennent la décision. Et en fait, il y a eu 4 autres imaginaires qui ont été ressortis de ces quiz. Et en fait, on a fait, on a incarné, on a écrit avec la pièce, la troupe de comédiens, on a fait incarner, du coup, des voyageurs du temps qui sont venus sur scène le jour de l'événement, avec un espèce de happening où moi je faisais la présentation du truc, et puis les gens arrivaient sur scène en mode, mais attendez, on vous attendait pas à cette heure-ci, faille spatio-temporelle, tout ça, c'était vraiment très drôle. Et où du coup chacun avait son texte et racontait, en fait, mais moi dans mon futur, on a résolu comme ça le problème du manque d'eau, etc. Et en fait, à chaque fois, il y avait du coup un peu les côtés positifs et les côtés négatifs de leur futur. Et ça, c'était, on est encore dans la phase de l'imaginaire, mais je trouve que c'est important de rendre sensible et tout ce qu'on vient de dire sur comment je crée de l'empathie. Et effectivement, c'est un moment où j'ai quelqu'un qui vient du futur, qui incarne un habitant, etc. Bah, je crée vachement plus d'empathie avec cette personne-là. Et tous les, on voit, et c'est là où du coup le travail des imaginaires est important. Tout le cyberpunk qu'on nous vend depuis 30-40 ans dans la science-fiction, forcément, ça développe un imaginaire, en fait, qui est ultra ville, bétonné, transhumanisme. Il y a 2-3 côtés qui sont cool parce que ça fait rêver un peu tout le monde, les trucs à la tronche.
Ouais, c'est limite inconscient, ça t'est rentré dans le crâne.
Voilà, ça t'est rentré dans le crâne, on va dans cette direction-là. Et là, il y a des gens, je ne sais pas si tu as vu, ça te parle, il y a un mouvement qui s'oppose au cyberpunk, c'est le solarpunk.
Ouais, ça sort.
Et du coup, et ça, c'est assez ouf de montrer cette vidéo-là, tu vois, à des gens. Moi, je montre à des élèves, des fois, qui sont un peu déprimés par l'actu, et je leur dis, bah, ça fait grave kiffer, en fait. Et ils sont tous d'accord en mode, ouais, ça, c'est une version du futur qui m'intéresse un peu plus, mais faut-il savoir qu'elle existe? Et c'est là où, pour moi, dans le rôle du design fiction, c'est vraiment, je vais reprendre la baseline de Lu, désolé, mais ouvrir le champ des possibles, de dire, je peux pas me diriger quelque part si je n'ai même pas conscience que ce quelque part existe. Et donc, toute la première phase que tu racontais, effectivement, c'est déjà de de rendre plausible, ou en tout cas de dire, en fait, on peut imaginer ça, on peut créer cette ligne de direction-là.
On a le droit de le faire. On peut s'autoriser.
Ouais. Et c'est là où, pour moi, pour redescendre, il y a un truc qu'on aime bien, c'est un peu ce truc entre passé, présent et futur. Et on l'avait travaillé, c'est quelque chose qu'on aime bien faire avec tous les clients, c'est quand même aller chercher des inspirations dans le passé déjà existantes.
Parce que si le côté un peu signe de l'infini.
Signe de l'infini, okay. Et de se dire que dans le passé, il y a des choses qui peuvent nourrir le futur. Et puis après, si on s'intéresse aux dernières théories en physique quantique, quand on réfléchit un peu au temps, en fait, effectivement, peut-être potentiellement que le passé peut influer le futur. J'ai écouté des 2-3 podcasts là, de scientifiques qui m'ont retourné le cerveau, mais de se dire qu'en fait, là-dedans, pour donner des clés en fait, d'inspiration, je trouve que le passé est hyper intéressant pour ratterrir. Et de dire, ok, on sait pas vrai, on voit qu'il y a tout ça, et après, c'est assez basique, c'est un espèce de plan d'action, de dire, c'est là où on veut aller. Alors après, qu'est-ce qui est plausible, pas plausible, etc. Et puis, dans ce qui est plausible, comment on y va? Je trouve que c'est vraiment intéressant, à ce moment-là, de faire intervenir des éléments du passé, des sources d'inspiration qui vont venir vraiment nourrir la construction, en fait, du comment. Parce que effectivement, en fait, il y a plein de choses qui ont été déjà réfléchies en vrai.
Et puis comment potentiellement ça a déjà été fait. Par exemple, je prendrais l'exemple du solarpunk, mais c'est de se dire, si jamais je voulais une espèce de ville qui était réintégrée à la nature avec les animaux, les machins et compagnie, c'est vraiment une structuration d'un gros œuvre quoi. Mine de rien, dans le passé, avant qu'il y ait toutes les méga cities. Il y a eu des premiers villages et ensuite ça a évolué. Donc je pense qu'en effet, dans les étapes de construction des grandes villes, il y a des tonnes de choses qui ont été faites de manière désirable, des tonnes de choses qui ont été faites de manière dégénérative. Et du coup, tu peux quand même piocher là-dedans des inspirations. Si ça a fonctionné et que ça a été ressource à ce moment-là, ça peut l'être encore maintenant. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas de... faut pas tirer un trait absolu sur le passé en se disant non, tout ça, c'est... Vu que ça nous a amené là où on en est, du coup, on tire un trait dessus, puis tant pis. Non, faut aller piocher dedans et en récupérer des choses qui sont intéressantes.
Et c'est là où je trouve que Bruno Latour était fondamentalement très, très, très intéressant. C'est dans son livre « Où atterrir ?», il avait posé un schéma qui est un peu toute la base de son livre, mais que je trouve intéressante. Il disait, tant qu'on sera sur une définition de concept avec le passé, c'est l'archaïsme, et c'est, entre guillemets, on met tous les bobos écolos, la permaculture, on met tout du côté, c'est le passé parce que c'est ancien, donc c'est pas la modernité, c'est pas la technologie. Et quand on mettra à l'autre bout de l'axe l'innovation, la technocratie, effectivement, l'high-tech, c'est trop bien, etc., ce qu'il dit Bruno Latour, c'est que tant qu'on restera dans cet axe-là, en fait, on n'arrivera jamais à faire quelque chose parce que du coup, dès que quelqu'un voudra entre guillemets revenir à des techniques plus modérées, parce qu'au final, la redécouverte de l'agriculture, de la permaculture, etc. Enfin, oui, c'est des techniques de nos grands-mères. Enfin, je veux dire, ça a été amélioré, mais tous ces savoirs anciens, les semences paysannes, etc. Enfin, en vrai, c'est pas nouveau, c'est la redécouverte, c'est revenir à des enseignements qui sont intéressants. Et Bruno Latour, il dit quoi? Il dit, en fait, il faut changer d'axe, il faut créer un nouvel axe qui permet, en fait, de... Et c'est là où, pour moi, il y a le solarpunk, c'est que, du coup, il faut mettre un axe où, en fait, j'ai le droit d'aller m'inspirer des techniques anciennes et la technologie a aussi sa place. Il ne faut pas que les deux s'opposent. Et c'est là où il met son concept de terrestre. Il faut être terrien ou terrestre, je ne sais plus lequel il dit, mais ça veut dire quoi? Habiter un territoire local, etc. Et il oppose au terrestre les Trump, les Musk, qui sont des hors-sol. Et en fait, qui n'ont absolument rien à faire, et on prend le dernier président qui a été élu en Argentine, qui n'ont absolument rien à faire, en fait, de consommer, de vider le capital d'un territoire, parce qu'ils considèrent qu'on pourra toujours aller pomper des ressources ailleurs, etc., et qu'il ne faut pas aller dans du régénératif. Et je trouve que là, la tour, il était vraiment hyper intéressant, parce qu'effectivement, tant qu'on va rester dans ce diptyque-là, on ne va pas y arriver. Et c'est là où, pour moi, les écrivains comme Bruno Latour, etc., ils font une démarche conceptuelle, j'ai envie de dire, d'ouvreur intellectuel, de pré-imaginaire, dans le sens où ils ouvrent des nouveaux concepts, et on a besoin de gens qui ramènent des nouveaux concepts. Là, il y avait le bouquin de Philippe Descola qui revenait, alors je ne l'ai pas lu, mais du coup, j'avais vu son interview sur Blast, qui disait en fait le concept de nature, c'est un péché, pour lui c'est un péché originel, si je peux pas dire de bêtises, mais de dire qu'effectivement au moment où on nomme dans notre langue, de notre langage, que la nature c'est quelque chose qui est en dehors de l'humanité, c'est-à-dire qu'au moment où je nomme la nature, c'est-à-dire que je suis capable de dire, bah voilà, le parc de la Tête d'Or, c'est un bout de nature. Mais en fait, il dit, bah en fait non, la nature c'est la ville aussi. Parce qu'en fait, c'est fait avec des matériaux, et en fait, on est la nature, tout est la nature. Et au moment où, en fait, d'un point de vue langage, on revient sur cette histoire de PNL, de matière, au moment où je définis que la nature, c'est ça, et ben, je peux pas faire grand-chose que d'autre que de vouloir la maîtriser, de vouloir la régénérer, de vouloir tout ça. Et je pense qu'on a besoin, même si on peut pas être d'accord avec ce que dit Descola, je pense que c'est intéressant, quand même, d'aller chercher des penseurs qui nous poussent dans nos retranchements intellectuels pour pouvoir imaginer d'autres choses. Et à ce moment-là, effectivement, comment après, une fois que j'ai créé ces imaginaires-là, comment je les rends tangibles ? Et sur la phase d'atterrissage, je vais reprendre l'atelier qu'on a fait avec Laetitia Schill pour l'Assemblée citoyenne des imaginaires. On a extrêmement guidé, en fait, le retour avec un format type. Là, c'était une carte postale du futur, mais où du coup, on les a vraiment fait passer par des étapes pour... Parce que déjà, de une, les personnes ne sont pas tous des souris tailornées par nature. Et ça, en fait, il faut vraiment que ça sorte de l'équation. C'est-à-dire comment, en fait, je vais chercher des envies, des réflexions, comment je les amène à un niveau intéressant. Et après, comment, en fait, je lisse le plus possible la difficulté, en fait, de produire un récit. Parce que quand on fait de la fiction, on peut créer des récits, moi, ce que j'appelle des artefacts, en fait, des artefacts du futur qui viennent questionner les choses. Et bien, comment je les amène là-dessus. Et là, il faut effectivement extrêmement guider. Où du coup on a déjà une structure narrative en tête, basique, c'est une lettre que vous écrivez à votre vous enfant, enfin à votre vous actuel, et globalement c'est « Salut, je t'écris du futur, tu vas pas en croire tes oreilles parce que c'est vrai qu'au début c'était pas simple pour telle raison, comme ça on ramène de la controverse, mais au final on y est arrivé, et là du coup on a une espèce de structure hyper basique narrativement, mais qui permet quand même de faire passer dans des jalons, et de pas être dans un truc parfait, tout fait. Et en storytelling, c'est le bouquin de Guillaume Lamar, très très bon bouquin de storytelling, qui s'appelle Storytelling Technique, je sais plus quoi. Et il a fait un chapitre dessus, et je le trouvais intéressant parce qu'il l'avait nommé tel quel. Il n'y a pas d'histoire s'il n'y a pas de conflit, s'il n'y a pas d'aspérité. Et dans le design fiction, ce que je disais en tout début, c'est que les récits qui sont trop parfaits, on n'y croit pas. Parce qu'il n'y a pas d'aspérité au réel, parce que ça merde pas, et on voit bien toutes les réflexions design UX, etc., qui sont intéressantes, c'est quand la tech elle marche pas, qu'elle nous questionne, qu'elle devient intéressante, etc. Et ben c'est pareil dans les histoires, si on nous dit tout est génial, etc., et on imagine un futur, ben en fait effectivement on peut être taxé d'utopiste, parce que du coup on n'est pas dans le réel, et moi c'est tout le travail, soit quand je bosse avec des élèves, soit sur des ateliers bénévoles ou avec des clients, c'est quand même comment on revient avec une prise au réel qui n'est pas utopiste, parce que du coup dans fiction il y a tout le côté storytelling imaginaire dont on vient de parler, et après il y a le mot design, et design c'est comment on conçoit pour des humains et comment ça nous parle au quotidien, et ça je pense que c'est hyper important de pas se perdre entre les deux, même si design fiction je trouve que c'est un mot chapeau pour plein de pratiques, en fait. Il y a des gens qui parlent de futur design, et quand tu, je sais pas si t'as lu un petit peu, mais t'as des gens au Japon qui ont vraiment posé la méthodologie futur design, on a parlé de design fiction, on a parlé de design prospectif, et chacun a un peu sa définition, et je trouve que t'as une espèce de spectre hyper large entre est-ce que j'ai une pensée très design, ou est-ce que j'ai, ou même on pourrait mettre prospective, fiction, design, et effectivement, il y a les prospectivistes, ça fait un moment qu'ils existent bien avant qu'on parle de design fiction, etc., qui disaient, voilà, il va se passer ça, on fait. Mais ils n'avaient pas le côté émotionnel, ils n'avaient pas le côté non plus, je trouve, utilisateur des petites situations du quotidien qui merdent pas. Et c'est là où je trouve que la fiction, avec tous ces outils de storytelling, elle nous apporte cette empathie, cette sensibilité pour que les gens, en fait, ils se mettent en empathie avec des situations quotidiennes, parce que. Effectivement, si je dis demain, par exemple, on sait dans les quand on a bossé avec le Grand Lion, eux, ils avaient toute une équipe de veilleurs qui a vraiment traduit toute la littérature scientifique de le réchauffement climatique en Rhône-Alpes, à l'échelle du monde, etc. Et on est vraiment parti avec un set de données qui fait que maintenant, je suis un peu devenu expert, malgré moi, de la thématique de l'eau. Mais de dire, par exemple, on estime qu'il peut-être y avoir moins 30% de débit dans le Rhône. Une fois que j'ai dit ça, ça c'est une information qui est scientifique, qui est cadrée, etc. Mais ça veut dire quoi, moins 30% de débit d'embrune? Ça veut dire peut-être que on va construire plus proche des berges, peut-être qu'il y aura moins d'eau, peut-être que Lyon, je crois, est la deuxième ville ou la première ville en France de tourisme fluvial avec les grandes barques là, qu'on voit à chaque fois vers l'hôpital. Là. Est-ce que ça veut dire que ça ruine le tourisme, etc. Et là, quand on commence à rentrer à peine à ouvrir la porte de ça, je trouve que là, on commence à. Là, c'est un bon point de départ pour du science-fiction en disant bah voilà, 30% de machin. Par exemple, on pourrait faire du science-fiction pour la compagnie des navettes fluviales là, touristiques, pour leur dire bah voilà, alors 30% de moins dans le débit du Rhône, quoi. On fait quoi avec ça, quoi? Est-ce que ça impacte vos bateaux ou pas? Comment on se positionne, etc., etc. Et là, on aura fait quelque chose d'intéressant avec eux, quoi.
Tu tires une contrainte et t'essaies de redescendre sur le métier et sur le quotidien.
Ouais,
quoi.
Ouais.
Dans le podcast précédent, je vais pas la refaire parce que sinon il suffit d'aller écouter le podcast. Mais
le lien est en bas.
Mais c'était vu que c'était dans le secteur de la défense en fait, tu vois, il parlait beaucoup, Quentin parlait beaucoup des métiers. Et donc du coup, eux, leur taf, c'est de pouvoir donner un paquet d'informations sur ce qui pourrait potentiellement se passer, les évolutions technologiques, parce que c'est beaucoup centré sur les évolutions technologiques aussi de son côté. Mais à chaque fois, c'était de dire, bon, on va y faire repasser par le prisme et l'expertise des métiers, parce qu'il y a que eux qui sont terrain, et il y a que eux qui vont pouvoir nous dire. Mmh. Donc c'est là où je pense que toi, ça doit être pareil dans tes projets. Et je serais preneur d'un exemple, tu vois, de ce moment où t'arrives vraiment à être sur le concret et sur le très proche du métier. Tu vois, lui, par exemple, parler des soldats. Et du coup, ben, dans toute cette prospective du futur, où potentiellement il peut y avoir un rôle du soldat qui est pas forcément de se défendre contre un adversaire, mais d'être au service de réactions par rapport à des changements climatiques ou des catastrophes naturelles. Et ben, il y avait un petit livret, exactement comme tu dis, toi, cette espèce d'artefact qui est connu, parce que les soldats ont déjà leur livret actuellement. Ben là, c'était le même design de livret, mais c'est juste qu'à l'intérieur, le contenu était différent, parce qu'en fait, c'était le contenu que tu as dans cette situation future.
Okay.
Et du coup, il y avait plus juste l'arme, la radio, quoi que ce soit. Il y avait des objets qui étaient, par exemple, des espèces de petits modules qui permettent de recréer des réseaux Internet très locaux. Parce que dans une situation où il y a tout Internet qui est tombé, ben, il faut pouvoir garder des moyens de communication locale. Et donc, du coup, en gros, il recréait un réseau temporaire pour pouvoir communiquer. Et puis après, il y avait d'autres choses qui étaient de l'ordre un peu plus du soin à la personne pour pouvoir réagir. Enfin, toi, des choses comme ça, pour créer des réactions par rapport à ça. Mais du coup, ça n'a pu être que proposé, donc dans ces détails-là. Et ensuite, il y a eu des réactions des personnes en disant « Non, mais ça, c'est pas réaliste, parce que sur le terrain, il peut pas y avoir ça, 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 ça. » Et en fait, le simple fait qu'ils rentrent dans cette critique-là, ça a fonctionné grâce à cet artefact et cette proposition. Et du coup, les vraies informations qui émergent, ben du coup, ça devient des informations que eux partagent et ça devient du coup quelque chose de très présent au final, parce que les informations du futur qu'ils ont apportées, c'est des choses qui ont été backées aussi par un peu de science. Et derrière, donc comme tu disais, gros concept de science, discussion avec le terrain, et au final ça fait sortir des billes qui dit ben oui, dans les deux prochaines années il faudrait quand même qu'on ait ça dans notre pactage, il faudrait qu'on change nos pratiques sur ça et ça, et ça donne des trucs vraiment très riches, quoi.
Bah, je pense en fait les deux sont possibles, et encore une fois c'est une question de public, parce que quand on voit qu'on travaille avec les collectivités, on est souvent sur du public mixte avec différents acteurs, etc. Et effectivement il y a toujours un moment un acteur qui va être un peu plus expert et qui effectivement va éduquer la table. Et si on se dit qu'une des missions du Zen Fiction, c'est quand même une notion de, enfin une mission de débat et d'éducation aussi, etc. Je trouve que déjà ça, boum, ça remplit déjà cette case-là de dire, je repars. Enfin, c'est tout le principe de l'intelligence collective. Je repars dans le Zen Fiction. On s'est tous enrichis en fait autour de la table et on est tous allés plus près, parce que ce qui est intéressant, c'était le débat sur c'était un moment sur la constitution des équipes et de se dire bah il faut mélanger, mettre du grand public avec des experts, parce que je pense que les experts aussi ont besoin. En fait, les experts, ils sont sachants, mais en fait, des fois, ils sont déconnectés du terrain et du réel, et du coup, du côté émotionnel, et du coup, UX. Mais moi, en fait, au quotidien, ça se passe comme ça avec moi. Parce que, en fait, moi, je suis maman de 4 enfants, et en fait, ce que vous êtes en train de dire, en fait, ça s'applique pas du tout à ma situation. Et pour moi, il y a un truc comme ça, quand on est sur des équipes mixtes, ou en fait, des groupes de travail mixtes. C'est même intéressant que ça arrive, comme ce que tu viens de dire, parce que du coup tout le monde grandit en connaissance, mais tout le monde vient apporter des choses. Et après, sur les projets où par exemple on n'est pas sur du mix, on est plus sur des experts, etc. Et ben en fait, ça se travaille en amont en fait. Enfin, il y a deux scénarios possibles. Soit ça se travaille en amont et on produit des choses. Par exemple, quand on produit, on a bossé avec le conseil, comment s'appelle, Conseil national du notariat, etc. Il y a eu des scénarios qui ont été imaginés mais qui ont été validés en fait avant de lancer l'atelier. Et là, pour le coup, c'est vraiment le discours d'expert qui, nous, notre métier, c'est quand même de maîtriser les narrations, etc., et de traduire un brief et de quand même, avec des éléments donnés par le client, de pouvoir extrapoler des choses, etc. Et après, quand même, avant de proposer ça, du coup, à une communauté d'experts et sachant, etc., en fait, bien sûr qu'avant, en fait, il y a une étape de qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment déconnantes ou pas, et là, on ajuste ce qu'on produit, pour que du coup, après, derrière, on évite effectivement cet écueil-là de « mais de toute façon, vous êtes à côté de la plaque, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. » Et après, avec quand même ce truc-là, sur les imaginaires, je repense, on avait fait venir Valérie Zoldo, donc de l'Assemblée sur les imaginaires, qui elle est une réalisatrice et qui est sur le côté sensible des récits, etc. Et on avait fait venir une experte hydroclimatologue, Florence Abbett, oui, c'est ça, mon nom de famille, qui du coup avait un discours, en fait, malgré elle, assez pessimiste, en fait. Et on se rend compte, et ça, c'était assez intéressant, je sais pas s'il y avait la vidéo de leur intervention, peut-être en ligne sur YouTube, mais en fait, on voit vraiment, en fait, tout de suite que le discours expert, oui, parce qu'il est sachant et qui va très loin dans le truc, qui va être potentiellement, bah, c'est foutu, ou de toute façon, on peut pas le faire. Et je pense qu'il y a vraiment un travail comme ça. On travaille quand même souvent en intelligence collective, enfin, c'est un peu quand même le fer de lance de la guide de l'innovation, c'est de quand même à un moment pas non plus laisser que les experts trop entre eux et parler que entre eux. Parce qu'à un moment, ils vont s'auto-censurer, etc. Et que si à un moment, on a besoin de créer de nouveaux imaginaires et de faire le pas de côté qui permet d'innover, qui permet de garder un temps d'avance par rapport à ses concurrents ou autres, il nous faut en fait ramener de la créativité et de l'innovation en fait, dedans et les à côté. Et là, on avait vraiment vu sur scène Valérie qui était là, qui challengeait, et puis une neurologue qui a raison, connaissait son sujet parce qu'elle était experte dessus, mais qui du coup, si on l'avait interviewé que elle, je pense que ça aurait découragé, parce qu'après, en fait, les gens faisaient un atelier après, après cette intervention, je pense que les gens étaient déprimés, et en fait, se disaient pas que c'était possible de changer la donne. Et c'est bien ça, je trouve, le problème à l'heure actuelle. Mais dans tout, même si on parle pas de design fiction, c'est pourquoi je le ferais, pourquoi ça vaut la peine. En ce moment, on entend vachement de je vois pas à quoi ça sert de faire attention à l'environnement, parce qu'en fait la France, c'est pas parmi les plus gros pollueurs. Ouais, bah, à ce moment là en fait, si la majorité des pays se disent ça, enfin, c'est toujours ce truc du comportement individuel qui devient collectif et de comment on gère.
Et à contrario, moi j'avais eu un exercice une fois qui était lié avec une chambre d'agri.
Ouais.
Et du coup, c'était très cool parce qu'il y avait, donc des profils experts, scientifiques, qui venaient poser justement des éléments de prospective, tu vois, qui étaient censés être bien baqués et tout, devant des gens de la chambre d'agriculture et dont des agriculteurs.
Ok.
Et donc le mec, pareil, posait son constat comme quoi ça allait être la merde sur ça, la merde sur ça, la merde sur ça et compagnie. Et il y a un des agriculteurs qui a réagi et qui était vraiment sur ce profil de mec très concret et qui disait « ce que tu me racontes là, ça me plaît pas,
okay.
Ça me va pas, raconte-moi plutôt qu'est-ce qu'il faut que moi je fasse à partir de demain ». Pour que du coup on puisse aller sur un truc qui me fait kiffer et qui me va, quoi.
Ouais.
Donc déjà, raconte-moi un peu ce qui pourrait être cool, tu vois, ça serait quoi, c'est là la partie de l'imaginaire, c'est
ouais.
Bah du coup tous les territoires seraient en permaculture avec une relocalisation, des échanges, enfin toi on peut poser un très rapidement, et ensuite après là quant à ça, du coup l'agriculteur est là, il peut dire ok, ça me fait kiffer. Donc du coup maintenant, aide-moi à réfléchir à comment moi je peux à partir de demain aller vers ça. Et c'est là où du coup il y a ce détail de se dire bon en fait il faut que t'arrêtes d'utiliser ça, il faut que tu utilises plutôt ça, il faut que tu redéveloppes des techniques ancestrales, donc faut que tu discutes avec tel gars qui les détient, ensuite après il faut que tu le partages avec tes collègues parce que du coup il faut que les autres autour ils fassent pareil. Et du coup il peut y avoir des gens qui vont venir avec toi sur le territoire pour faire ce lien, parce que toi on sait très bien que quand t'as les mains dans la terre, t'as pas le temps de faire tous ces trucs là. Et hop là ça commence à activer quelque chose. Mais en effet ça. Là, dans cet exemple-là, ça venait de la réaction et de la volonté de une personne qui avait pas envie d'être passif, ouais, ou qui avait pas envie se dire bon bah en fait dans ce que tu me dépeins tant pis quoi. Ouais. Donc, moi je vais continuer à me faire kiffer, peut-être que mes enfants ils vont kiffer pendant 30 ans et puis après ça sera foutu. Et du coup, une question qui me vient, c'est est-ce que tu as un exemple de c'est le cœur de ce qu'on discutait là où tu arrives à redescendre vraiment dans un contexte très précis des personnes pour arriver à faire en sorte qu'ils repartent de l'atelier non pas avec simplement de la connaissance ou plus de conscience ou quoi, mais avec vraiment des premières pistes de se dire bah à partir de demain dans notre quartier, dans notre entreprise ou quoi, on va pouvoir activer ça et ça, et je sais où ça va parce qu'on a travaillé aussi sur la vision
ensemble. Et ben c'était l'étape qui nous manquait avec le moment, parce qu'en fait on voit à chaque fois qu'on est quand même réduit en temps etc, et que si on veut déjà passer sur un truc, et effectivement on a du mal à atterrir sur cette étape là dans le sens où en fait quand on a fait imaginer les gens, et après effectivement comment je mets des actions, comment je fais un petit plan etc, il y avait par exemple toute la démarche, j'ai construit un atelier et on s'était partagé le temps avec l'agence de développement, l'agence d'urbanisme de Lyon, sur les assises des quartiers populaires, les assises citoyennes populaires, ou les assises des quartiers populaires de Lyon. Je ne sais plus exactement le nom, mais je crois que c'était ça. Et où, du coup, c'était comment réfléchir à la qualité de vie dans le quartier, etc. Donc, moi, j'avais fait la première phase de l'atelier, c'était comment les faire s'exprimer, faire une carte du sensible de je vais dans tel lieu, ça me plaît, etc., pour pouvoir le traduire. Et après, l'agence Urba avait développé un jeu dont j'ai oublié le nom, mais qui était un jeu en fait de design fiction où Prospectus, ça s'appelle Prospectus, mais avec un jeu de mots prospective. Et l'artefact final, c'est un prospectus, c'est un flyer. Et où du coup, en fait, on distribuait vraiment un peu jeu de société, etc., avec toi, t'es dans tel rôle, etc. Et comment ils pouvaient imaginer justement un événement, une vie de quartier, etc. Et effectivement, tout ça, ça a été, en fait, à chaque fois, c'est sur des timelines qui sont assez longues parce qu'ils sont arrivés à la phase de imaginaire. Et donc, je vous présente un événement de quartier, de mon quartier idéal, donc avec la projection, qu'est-ce que j'aimerais envie de voir dans mes quartiers, des quartiers prioritaires, qu'est-ce que j'aimerais voir dans mon quartier. Et en fait, ça s'est conclu. Et là, moi, parce que moi, j'étais que sur l'atelier et je suis pas allé, malheureusement, j'avais pas le temps, mais à la réception finale, où en fait, la fin de la boucle, c'était quand même une assemblée, etc., avec le partage des résultats. Et après, comment les politiques se saisissent de ça, etc. Et tout le travail qui a été fait, je repense à au futur. Il y a vraiment des docs qui ont été mis sur Millénaire 3, avec vraiment des.
Millénaire 3, qui est.
Qui est la division prospective de la métropole. D'accord. Si tu connais pas, vas-y, c'est vraiment très fourni. Et là, eux, ils ont vraiment une mission de traçabilité et, on va dire, de théorisation des choses. Il y a Nicolas Lepret qui travaille avec nous sur cette mission, qui a écrit un énorme article qui est extrêmement fourni sur pourquoi les imaginaires, etc. Et avec cette même conclusion de c'est difficile d'atterrir. Et en fait, atterrir où et quels sont les livrables qui permettent de faire quoi? Et par exemple, sur Au Futur, le but, c'était quand même d'avoir une cartographie qui soit quasiment un outil, pas un outil politique, mais de dire comment je me positionne par rapport à ça et comment je vais pouvoir activer des choses par rapport au fait que il y a des gens qui pensent que c'est la technologie qui va les sauver, il y a des gens qui reveulent de la nature en ville, il y a des gens qui veulent encore plus de contrôle avec des données et des capteurs partout, etc. Et en fait, c'est là où je pense qu'il y a à chaque fois un travail de c'est qui ma cible finale et qu'est-ce que j'essaie de faire pour trouver le livrable final qui permette le mieux de mettre en mouvement. Et là, le but, c'était quand même d'avoir des réflexions intéressantes parce que, pour le contexte, Au Futur, ça intervenait avant la mise en régie de la gestion de l'eau, mais qui a été récupérée par Grand Lyon. C'est-à-dire que la métropole de Lyon a fait quelque chose d'assez intéressant dans le contexte de l'eau qui va être un peu aléatoire en termes de distribution, c'est que du coup, ça a été rendu public, en fait, la gestion de l'eau. Donc, c'est plus Veolia, je crois. Donc, c'est plus une entreprise privée qui gère la tarification de l'eau. Et là, ça a donné quoi derrière? Au futur, ça a nourri énormément de réflexions par rapport aux politiques, etc. Et derrière, ils ont fait, je ne sais plus exactement les termes, mais ils ont vraiment pris quelques citoyens pour faire une espèce d'assemblée citoyenne de l'eau. Et ils ont fait toute une série d'ateliers là, pour définir la tarification et qu'il y ait des citoyens qui soient avec des élus, etc., pour vraiment poser les briques des choses. Et là, on rentre dans du concret, en fait. Mais du coup, c'est sur des démarches, en fait, qui sont hyper longues. Alors là, j'ai pris beaucoup d'exemples du public, parce que c'est beaucoup les collectivités, etc., sont quand même hyper au fait de ces enjeux-là, de comment il faut motiver, etc. Et effectivement, on voit que c'est pas un truc qui se fait en une ou deux semaines, parce qu'il y a un peu d'acculturation, il y a un peu de choses comme ça. Et en entreprise, effectivement, nous, on essaye de plus en plus quand même d'arriver sur bon, so what derrière, en fait, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et c'est vrai que deux cas de figure possibles, soit le client, il est chaud et il continue dans sa direction, soit souvent, comme dans beaucoup de choses avec les clients, que ce soit la formation, que ce soit, etc., on sait très bien comment ça se passe, et ça a été un super chouette moment, comme tu as dû le voir sur des sprints de design. C'est exactement pareil. Sprint de design, globalement, on arrive à des solutions, on arrive à des choses qui donnent envie, etc., et ça va soit c'est saisi directement, soit effectivement ça va traîner et puis ça va devenir juste un bon souvenir de quelque chose. Et c'est là où il y a je crois qu'il y a un vrai boulot à faire d'accompagnement au changement et mais d'aller arriver avec les bons outils, parce que je pense qu'à un moment ça dépasse aussi un peu les simples compétences du designer, parce que des fois on soulève des questions de RSE, de QSE, etc., et qui sont des sujets ultra lourds, etc., parce que forcément, en fait, quand on arrive à la fin du plan d'action, en fait, c'est après comment j'accompagne, mais avec une équipe pluridisciplinaire, parce que là, il y a du juridique, il y a du légal, il y a de l'accompagnement au changement, etc., et en fait, c'est là où je pense que il y a un peu de résistance, c'est qu'après, il faut y aller. Soit le patron, il est convaincu, et c'est ce que disait Frédéric Laloux dans toutes les entreprises holacratiques, c'est que si la tête de la pyramide, elle a envie d'y aller, elle y va. Par contre, si on a convaincu juste la strate inférieure, etc., ils ne vont pas avoir les clés de tout faire bouger. Et du coup, c'est comment je les accompagne pour, du coup, d'un point de vue juridique, légal, transformation, process entreprise. Et là, c'est d'autres métiers, en fait. En vrai, là...
Là, tu rentres sur un écosystème d'accompagnement beaucoup plus large.
De l'ingénierie, d'accompagnement au changement, de transformation des entreprises, de réorganisation des entreprises, tous ces consultants-là qui... c'est important. Et c'est là où je pense que, petit appel aux gens qui seraient dans ces métiers-là, en fait, faites appel aux gens qui font du design fiction, parce que j'ai encore écouté... des histoires, mais improbables. J'ai ma coloc qui a vécu, je ne vais pas dire la boîte, parce que du coup, c'est des infos un peu confidentielles, mais qui a vécu des remaniements avec des restructurations où, en fait, comment c'est vécu, c'est... Il n'y a aucune intelligence collective, et c'est pour ça que je pense que dans les adfictions, il ne faut quand même pas oublier que c'est une démarche qui est collective et qui doit être partagée. Là-dessus, je mets vraiment un point d'honneur là-dessus, parce qu'en fait, ils voient débarquer un consultant qui est payé extrêmement cher, alors que les salaires sont hyper bas dans la boîte, que la plupart des gens sont au SMIC, etc. Donc tu vois quelqu'un qui prend peut-être entre 5 et 10K par mois, qui en fait connaît pas l'historique de la boîte, etc., arrive, fait tout un plan de changement, etc., il y a une casse sociale monstrueuse, et après voilà, et en fait faut croire que le consultant il est bien intentionné, il a bien compris, etc., et on redescend jamais avec c'est quoi le quotidien des gens, quoi. Et après c'est le ping-pong entre du coup ça marche pas, donc après on refait les réunions et on fait remonter toute la pyramide, et après ça redescend dans l'autre sens, et je crois que là-dessus il y a vraiment un truc de comment mais ça pour le coup c'est cette mise en lien et cette organisation mise en lien, c'est le métier du designer de comment je mets tout le monde autour de la table pour arriver à la suite. On avait essayé un moment de monter une offre qui au final avait pas marché parce que peut-être trop précurseur, etc., avec deux nanas qui faisaient de la RSE pure et dure, mais en termes de certification ISO, les objectifs de les ODD,
les bilans carbone,
etc., enfin des gens qui ont vraiment ces compétences là du coup on avait commonté une offre où du coup nous on apportait le côté intelligence collective, design fiction, etc., et même en ayant démarché de trois entreprises, etc., c'est, en fait, c'est parce que c'est des énormes morceaux. En fait, c'est taré, tu te dis, en fait, je vous accompagne pendant un an et demi, en fait, et puis, il y a un prix derrière. Et c'est là où, en fait, c'est, je pense pas qu'il y ait une solution miracle, et je me dis, c'est par la multitude de gens qui font du design fiction, des gens qui accompagnent, etc., mais en fait, qui quand même tout pousse en ce moment, j'ai l'impression quand même à... On vit une période qui est quand même hyper excitante, je trouve, parce que dans les effondrements égale naissance d'autres choses, et je crois que toute la période un peu excitante en ce moment qui se passe, c'est parce que tout le monde s'active, parce qu'il y a plein de potentiels, en fait, qui sont en train de se libérer, et moi, j'ai envie d'encourager ça, en fait. Nous, on fait du design fiction comme ça, nous, on fait du design fiction comme ça, mais faites tous du design fiction à votre manière, du moment, en fait, que ça pousse, en fait, à aller élargir, en fait... notion du futur, parce que je trouve ce qui est dramatique en ce moment, c'est qu'en fait, la notion du futur, elle est confisquée par des élites et une classe sociale, politique, etc., qui est technologique, parce qu'on va pas se mentir, les GAFAM nous donnent le rythme des évolutions technologiques, de où il faut aller, tu vois, est-ce que le monde a besoin du Vision Pro, tu vois, de Apple, est-ce que tous ces gens-là, enfin, est-ce qu'on a besoin de ces innovations techniques-là, tu vois, technologiques qui sont encore des écrans, et encore, je me coupe du monde. Et toi, si je vais faire un parallèle qui pour moi est le truc le plus intéressant qui est arrivé ces deux dernières semaines. Donc on a quand même en l'espace de 4-5 mois Apple qui rentre du coup dans un truc qui est quand même intéressant en vrai. Je trouve ça excitant actuellement l'informatique spatiale, de dire qu'effectivement l'espace va être une interface, notre environnement 3D mais dans le réel et pas dans le réel. Meta qui sort ses lunettes avec Ray-Ban. Et je pense que tu as vu la sortie de l'AI PIN d'un ancien de Google, là, avec son petit PIN qui est boosté avec IA. Et ben là, moi, je me suis dit, ah bah, ouf, le mec, il est ultra disruptif. Il y a tout le monde qui va vers un truc de, on va porter des casques, on va mettre de plus en plus d'écrans devant les yeux ou de l'AR, ce qu'on veut, etc. Et le mec, il fait un pas de côté intellectuel qui est, je trouve, l'innovation technologique la plus excitante intellectuellement qui s'est passée cette année ou même des dernières années, de dire en fait je vais faire disparaître l'ordinateur et les téléphones et je vais faire un truc qui se clipse là,
il se rapproche de Her quoi,
ouais, et qui se projette dans ma main quand j'ai besoin d'informations, qui détecte mes mouvements. Donc il y a de l'inspiration, enfin il y a des technologies qui sont similaires avec le Gen Pro, mais quand il a fait un TED Talk, le gars, en fait j'avais même pas vu son TED Talk passer, mais il avait déjà présenté son concept il y a 6 mois, donc en fait si on suivait un peu TED, on aurait pu sentir le truc venir. Et en fait, en proposant cette vision de « tiens, je fais disparaître l'informatique et je reviens à ce que c'est d'être un être humain, etc. et de ne pas être tout le temps collé à son écran. Et à quoi ça sert l'informatique ? Ça sert à nous diriger dans la rue, ça sert à envoyer un message, etc. Mais au final, si je fais tout disparaître, les écrans et les interfaces, parce que déjà, en plus, un petit pin comme ça, boîtier sous IA branché avec de la 5G, ça reste quand même plus sobre qu'un smartphone et qu'un ordinateur avec des écrans et multitude de composants. Et là, je me suis dit « tiens, il se passe quelque chose ». D'intéressant, et je pense qu'il a vraiment créé une branche, à voir si l'humanité la suit, mais une branche vraiment de tiens, un monde sans informatique, enfin sans informatique visible quoi.
Moi, ce que ça me fait penser, c'est deux choses, et après on arrivera sur la fin, parce que ça fait une heure quand même, mais j'ai pas de. On pourrait faire 3 heures.
On pourrait faire 3 heures, ouais.
Le premier truc, c'est le quand tu parles du petit pin à la heure, ouais. Tu vois. Et ce que tu disais par rapport à Bruno Latour avec le fait de pas voir les choses de manière linéaire, parce que sinon on s'empêche, tu faisais un symbole un peu comme ça, un peu comme un entonnoir où du coup t'avais le passé, le futur.
Oui, bah en fait c'était pour son autre.
Et ça tombe dans le présent. Enfin moi je l'ai interprété comme
d'accord.
Ça.
Ah oui, oui.
Et je trouve ça intéressant parce qu'au final quand t'es en train de concevoir quelque chose, tu conçois pour le présent, et du coup tu peux te dire bah, en fait je vais prendre des trucs du passé, je vais les mettre dedans, je vais prendre des trucs du futur et je vais les mettre dedans.
Ouais.
Et du coup ça me faisait penser à ça dans le sens où ce mec peut-être que dans son processus, dans ce cas c'est l'imaginaire personnel, mais c'est dans le passé, c'était quoi une personne, c'était quoi une sorte d'assistant en fait, c'est la personne, tu vois, t'avais ton assistant en fait, t'avais peut-être une personne, ton secrétaire qui était tout le temps avec toi, t'étais pas du tout sur un écran, t'avais juste à lui parler et lui dire vas-y note ça dans le carnet, rappelle-moi des trucs, dis-moi si je vais à gauche à droite, conduis-moi dans ma voiture et compagnie. Donc ok, en fait ça a déjà existé. C'est juste que c'était un humain qui le faisait.
Ouais.
Et puis avant ça encore, il y avait les esclaves, tu vois. Donc du coup, on servait d'humain pour subvenir à l'assistance et au confort d'une personne. Bon, je prends toutes les bonnes idées, tous les usages au final d'assistance qu'il pouvait y avoir, je mets dans le paquet, et puis dans le futur, j'imagine des trucs technologiques, machin, l'IA et tous ces trucs-là, qui n'existent peut-être même pas encore, mais je sais que ça va devenir, parce que justement, il y a les grandes entreprises qui poussent vers ça. Ok, je vais prendre les technologies du futur qui vont me permettre de faire ça. Et du coup, bah oui, si tu combines ça, ça donne pas un casque, ça donne pas de l'information en plus à droite à gauche. Ça donne justement cette petite personne qui n'existe plus, mais qui est l'IA, mais qui est avec toi et qui peut te guider, récolter de l'information, faire ton second cerveau et tout. Donc, je trouve que ça, C'est vachement, vachement inspirant de relier ces deux points-là. Et l'autre point qui me vient aussi, c'était une réflexion sur comment est-ce que on peut réussir à vraiment incapaciter les gens pour être sur ce niveau de détail d'action qui va vers une vision. J'avais vu une démarche d'un gars qui était devenu maire d'un village.
Okay.
Je trouve que c'est un super exemple, le maire du village, parce qu'en fait, il a débarqué, il s'est installé, c'était un village comme on les connaît, en mode tout mort et compagnie. Il est monté à la mairie, donc déjà, il l'a fait en mode complètement participatif, donc il allait chercher tous les gens qui habitaient, il allait chercher d'autres potes en disant, bah, je vais être maire du village, les gars, donc venez habiter dans le village, il y a des maisons pas chères et tout, donc ses potes ont acheté des hameaux et tout.
Très bien.
Il a fait une proposition participative. En fait, vu qu'il avait rencontré tout le monde et que l'autre maire, il était quasiment à la rue, et puis il lui a même dit, j'ai plus envie, il s'est fait élire. La première action qu'il a fait, c'est de mobiliser justement tout ce collectif, ce petit monde et les autres gens qui habitaient, en disant, bon, définissons à quoi on aura envie que ressemble notre village dans 5 ou 10 ans, parce que là, à partir de maintenant, eh ben, on va le construire.
Ok, très bien.
Donc du coup, ils sont partis sur ces imaginaires-là, en étant assez concrets, parce que du coup, tu fais un plan du village, tu dis, bah non, on va faire pousser ça, 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 bon, on va surtout pas faire des immeubles d'HLM parce qu'on n'a pas envie, on va devoir gérer la nourriture en local, parce qu'il y en a qui sont maraîchers, qui ont envie de faire, on va le faire là, on va remettre une boulangerie ici et tout. Il a posé tout ça. Et ensuite, quand ça s'était posé, validé par tous les participants, ça a tourné un peu dans le village et tout, tu sais, comme tu fais dans un village et tout, pour ça. Et après, il a fait un appel en disant, bon, ok, donc maintenant, il faut que j'ai des agents en fait de mairie qui mettent en place les différentes choses. Donc venez me voir et on va le faire par appétence. Et du coup, il y a un gars qui s'est pointé, il a dit bah moi la boulangerie, j'ai grave envie de faire du pain. Le village des Schtroumpfs, tu vois. Et du coup, hop, ça commence à se positionner. Lui, son rôle en fait, il l'expliquait, il disait moi mon rôle c'est facilitateur et c'est coordinateur. Donc en gros, après ben et puis après il a délégué bien entendu sur d'autres gens pour l'aider. Mais c'est j'écoute en fait ce que les gens peuvent apporter par rapport au plan qu'on a défini, et ensuite je leur donne les moyens pour qu'ils puissent arriver à le mettre en place. Et eux, en échange, ils doivent me remonter si ça se passe bien et tous ces trucs là. Et il est rentré dans une forme d'interaction comme ça avec son village. J'ai plus la source, donc ça me fait chier.
Okay.
Parce que j'aurais bien aimé la partager. Mais je trouve ça ultra inspirant et du coup ça m'amène aussi sur le sujet de l'entreprise, parce que pour moi, toi tu me dis que tu bosses beaucoup avec l'institutionnel,
ouais.
et je trouve ça, c'est pour ça que je prends l'exemple du maire,
ouais.
Parce que je me dis que pour justement il puisse y avoir des vraies démarches de concret et de prise en main par plein de gens, à l'échelle d'un village, c'est beaucoup plus simple que le faire à l'échelle d'une métropole comme
clairement,
la métropole
ouais.
de Lyon. Parce que là, il faudrait que t'écoutes tout le monde. Enfin, c'est plus complexe que limite, il y a trop de monde. Et peut-être que c'est pas souhaitable en fait de faire ça à cette
ouais.
échelle. Pour une entreprise, il y a plein de TPE, il y a plein de PME, il y a plein de TI qui, en plus de ça, ont déjà des gens qui sont dans des fonctions qui font tourner l'organisation. Et du coup, le processus de se mettre, de se dire, ben, venez, on pose un peu l'entreprise idéale qu'on voudrait avoir et à quoi elle sert pour le reste du monde. Et ensuite, ben, mettons-le en œuvre. Donc déjà par les actions qu'on fait au quotidien.
Ouais.
Mais comment est-ce que je vais modifier mes actions au quotidien dans mon métier pour pouvoir faire en sorte de tendre vers ça? Et du coup, ça remet vraiment tout le monde sur son quotidien métier, quoi.
On avait, alors c'est pas moi qui ai accompagné, c'était Arthur et Johan, donc je vais pas dire trop de bêtises dessus, mais sur EMH, donc un bailleur social, S-Métropole Habitat, où du coup, on est vraiment passé par du design fiction au début, et en fait, ça a donné lieu à leur, et là, je sais plus comment il l'appelait, mais à un espèce de plan stratégique, etc., et qui a vraiment été mis en place avec un suivi pendant un an. Donc, mais encore une fois, je trouve, et c'était intéressant ce que tu disais sur l'exemple de la mairie, c'est et même sur les PME, les TPE, etc., ça veut dire en fait qu'il faut aussi une flexibilité des organisations. Et en fait, je trouve que dans ce truc de comment, parce qu'en fait on nous demande de réfléchir à des futurs alternatifs, comment je peux réfléchir à un futur alternatif et concrétiser un futur alternatif avec des modes de fonctionnement qui sont ceux du futur dominant. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je trouve que pour retrouver de la liberté de penser, etc., je trouve que ça sous-entend une flexibilité des organisations. Parce que tu vois, par exemple, bah voilà, imaginons, je fais, et là, par exemple, chez EMH, j'étais porté par une personne en particulier, Lucie, qui du coup, elle a porté la démarche, mais parce que ça faisait partie un petit peu de son scope de métier. Mais t'arrives chez des boîtes, et en fait, tu crées une vision machin, et en fait, il y a des trous dans la raquette, où il y a des nouveaux métiers qui ont besoin d'émerger, où il y a une nouvelle organisation, etc. En fait, c'est là où, du coup, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup, tu touches à l'organisation de l'entreprise, pour réaliser la vision, et en plus, sans compter les trucs légaux, etc. Et je trouve qu'il y a un vrai sujet à prendre en compte, c'est qu'à un moment, si je réfléchis au futur, si je réfléchis à ma raison d'être, et si je réfléchis à des nouvelles orientations stratégiques, forcément, ça va toucher à l'organisation. Et là, il y a peut-être un diag de base à faire, c'est une idée. Peut-être que le diag, c'est, en fait, il est où votre coefficient de flexibilité avant qu'on commence la mission avec vous, en fait. Parce qu'effectivement, c'est beau de super bien arriver, mais si derrière, j'ai pas les moyens et la flexibilité nécessaire de réorganiser des services, etc., pour accomplir cette vision-là, en fait, effectivement, ça va faire de l'acculturation et ça va quand même porter ses fruits d'une autre manière.
Ouais. Mais ça va pas pouvoir être mis en œuvre opérationnellement.
Et je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus à voir dans. Ce sera peut-être une question à poser sur les prochaines personnes, mais sur comment aborder cette question de l'organisationnel en entreprise. Et effectivement, là, je prends l'exemple de MH où ça s'est bien passé. Enfin, là, c'est plutôt moi qui ai une vision externe. J'ai pas bossé directement dessus, j'ai suivi de loin le projet. Mais effectivement, parce que là, on était sur des façons de faire et des organisations qui sont déjà un peu picousées au design, qui ont l'habitude de travailler. Et j'ai l'impression que quand même, pour mettre en place des stratégies, il y a quand même une acculturation à faire. Enfin, soit elle est déjà faite, cette acculturation design et cette pensée intelligence collective et ça, je travaille ensemble. Soit elle n'est pas faite. Et auquel cas, ça veut dire que si je fais du design fiction, il y a peut-être un diagnostic de base, c'est est-ce que du coup derrière ça va pouvoir germer, parce qu'en fait il y a les conditions possibles de la germination, parce que les gens vont pouvoir bosser de manière fluide.
Et puis la responsabilité des accompagnants qu'on peut être sur ces sujets-là, c'est en effet, si je rejoins ce que tu dis, de ok, donc vous avez envie de travailler sur la vision, parce que vous avez compris que c'était important pour mettre du sens et de l'engagement, comme tu disais au tout départ, et de la fidélisation. Mais j'ai quand même quelques questions à vous poser par rapport à vraiment l'enjeu au bout. C'est est-ce que c'est un enjeu d'acculturation, de partage d'histoire, d'ouverture d'esprit, de tout ça? En quel cas, ok, on peut bosser ensemble tout de suite, y a pas de problème. Ouais. Est-ce que c'est un vrai enjeu de transformation de votre modèle, d'évolution de votre entreprise? En quel cas, il faut que je vienne un petit peu observer, voir où est-ce qu'elle en est déjà votre entreprise en termes de flexibilité, d'agilité, de capacité de s'ajuster par rapport à tous ces sujets-là. Parce que sinon, oui, on va en arriver à un côté déceptif d'un rêve qui, dans tous les cas, sera inatteignable. Quoi.
Et on l'a eu avec un client, je ne vais pas citer, parce que du coup, c'était un autre exemple, je ne vais pas citer qui c'était. Ouais, c'était dans le bancaire. Et effectivement, viens, on a besoin de faire un petit atelier, machin, etc. On réfléchit à plus long terme, etc. Et du coup, forcément, quand tu passes dans l'étape, les gens disent, de toute façon, là, on réfléchit à des trucs hyper bien dans l'idéal, machin, etc. Mais on sait très bien que ce ne sera jamais réalisé. Et on tombe exactement dans ce truc-là. Et c'est vrai qu'il faut savoir où est-ce qu'on met le curseur. Et du coup, pour ne pas être déceptif, est-ce qu'effectivement, là, vous faites appel à moi parce qu'en fait, il y a un besoin d'inspiration, de motivation, parce qu'en fait c'est très à la mode les visions en ce moment d'entreprise, parce que la loi Pacte, parce que tu sais, c'est comme d'hab, je crois qu'on avait parlé il y a plusieurs années, il y a les gros concepts théoriques qui sont récupérés par des consultants un peu bullshit des fois, et qui du coup en fait ont récupéré, parce que oui, la théorie, on comprend pourquoi il faut avoir une vision d'entreprise, parce que, enfin, pour 20 000 autres raisons qu'on va pas expliquer là maintenant, mais oui, il y a un sens profond à avoir une vision d'entreprise, à avoir une mission sociétale, toute l'ESS, etc., l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, enfin, je pense que vraiment le futur, il appartient aux entreprises qui ont d'autres métriques que l'argent et qui sont distributives et régénératives par rapport à nos sociétés, d'où le fait d'avoir une vision. Et en fait, j'ai l'impression que ça a été récupéré par des grosses boîtes de consulting et qu'après, effectivement, il y a des gens qui disent « Ah, il faut qu'on ait une vision, il faut qu'on ait un truc », en dénuant un peu de sens le truc, quoi. Et de bien, quand on travaille avec des gens, de quand même effectivement faire ce petit diag, et peut-être au début, on avait eu le cas quand on était sur cette offre avec RSE, avec les nanas qui étaient spécialistes de RSE, de dire que dans le premier truc qu'on avait imaginé, c'était de faire un bilan en fait, pour dire no go, si la personne elle est juste là, parce que la RSE c'est l'enfer en ce moment, enfin... Tout le monde veut faire de la RSE parce que c'est le mot machin et personne ne sait définir la RSE correctement, etc. Comment je fais un diag aussi pour effectivement pas être déceptif.
Exactement. Merci Mévan pour cet échange.
Merci Fabrice.
Est-ce que tu as un petit point d'actu de ta boîte ou un projet ou quelque chose que tu as envie de partager à ceux qui écoutent?
Un petit point d'actu, j'ai oublié, je voulais potentiellement le ramener, mais on a fait un petit jeu justement pour être sur la phase... La phase réaction, on a fait un jeu de tendance et de signal faible. qui s'appelle Vision Deck. Et peut-être tu mettras le lien, on verra sur la post-prod. Mais du coup, en fait, de se dire, et je reviens à ce premier truc de, je crois que c'est hyper, c'est un outil en fait qui permet de se mettre d'accord sur le futur, en fait, de déclencher du débat sur la connaissance que j'ai du monde à l'heure actuelle et où est-ce que je pense que l'on va aller. Et on l'a testé 2-3 fois et là on commence à le vendre à d'autres personnes. Et en fait, les premières réactions sont quand même, c'est hyper intéressant pour débattre et on se rend compte que quand même, si on veut pas retomber dans ce truc de le futur il est confisqué par quelques personnes, je crois, je vais peut-être finir là-dessus, mais c'est vraiment comment je co-construis en fait le futur et je peux pas me dire c'est ma vision du futur qui prime sur celle des autres. Donc voilà, je trouve que j'ai fini.
C'est de venir chercher avec votre outil ou dans la philosophie, c'est de venir chercher vraiment les projections que chacun se fait avec les informations du présent.
Exactement.
Et de se nourrir tout simplement individuellement de ça.
Exactement, parce que je crois, et peut-être ma conclusion, c'est qu'on vit dans un bordel cognitif et informatif qui nous a tous rendus débiles, et je m'inclus dans le panier, j'ai pas de condescendance sur les autres. Mais nos émotions sont prises en otage tous les jours, on le voit sur le conflit israélo-palestinien en ce moment, les fake news, etc., les techniques de propagande, de j'ai plus envie de ça, etc. Et je crois qu'il y a vraiment, je trouve qu'en ce moment, avant peut-être de réfléchir effectivement au futur, je crois qu'il y a quand même une grosse phase de comment on se met d'accord et on s'accorde sur un contexte, parce qu'on pourra beau faire toutes les projections que tu veux, si en fait tu te rends après coup que ta projection, en fait, personne n'a le même point de départ, tu vas fausser ta trajectoire à chaque fois. Et je crois que ça, c'est vraiment un truc important. On a besoin de retrouver une notion de commun, mais avec un grand C, de c'est quoi nos communs à l'heure actuelle. Et moi, ce qui me fait un peu du mal en ce moment, c'est de voir qu'on a de moins en moins de communs et qu'on est de plus en plus dans des rhétoriques qui sont clivantes, etc. Et comment on retrouve le goût du débat. Ouais, je pense pas pareil que toi, mais vas-y, on va en parler, en fait. Et parce que ça permet après des réflexions qui sont des compromis, etc., et d'avancer ensemble. Et voilà, ça va être le...
Compréhension du contexte et du monde actuel, ou du contexte de l'entreprise dans le cadre d'une organisation. OK, en partant de là, du coup, viens, on regarde un petit peu où est-ce qu'on a envie d'aller. OK, et ensuite, viens, on voit comment est-ce qu'on rend ça réel.
Ouais. OK. Et comment on y va. Voilà.
Très bien. Bah voilà, en 3 étapes. Au final, c'est pas compliqué.
Merci Fabrice.
Merci Mévan, c'était très cool.